Vous écoutez, on lit pour vous.
En France, des poils humains sont transformés en textile. Un texte de Philippe Teixeira Le Sart, paru le 22 février 2026 dans la presse. Les deux jeunes entrepreneurs ont tout parié sur une fibre inusitée, les cheveux humains, pour fabriquer un textile multi-usage qui permet d'économiser énergie et plastique, tout en détournant de l'enfouissement le contenu des poubelles de milliers de salons de coiffure. C'est en cherchant une filière de déchets à valoriser que le duo a pensé aux fibres naturelles que nous avons tous, ou presque, sur la tête. Ça a commencé autour d'un verre. On en a fait un peu un projet d'école, et quand on a vu qu'il y avait un vrai sujet, c'est devenu un projet de vie. Il fallait qu'on se lance, raconte James Taylor, dans les locaux de Capilom à Clermont-Ferrand. L'entreprise a vu le jour en 2019. Capilom produit des rouleaux et des pièces de ce textile nouveau genre, essentiellement destiné aux jardiniers et aux arboriculteurs. Faire pousser les végétaux à travers ce paillage permet de mieux les protéger contre les chocs thermiques, mais aussi contre les animaux, les mauvaises herbes et la sécheresse, selon ses promoteurs. Dès qu'il y a de la plantation et de la gestion forestière, on a du sens. Tous les mois, ce sont 30 tonnes de matière qui auraient dû être éliminées ou pas valorisées à leur juste valeur et qui, derrière, ont une seconde vie, affirme Clément Baldeloup de Capilom. Les cheveux humains sont mélangés en part égale avec de la laine de mouton, elle aussi promise à l'enfouissement, pour assurer la résistance du produit final. Comme du velcro. Dans le local industriel, la machine créée par James Taylor est à l'arrêt. Pas de photos rapprochées possibles, car plusieurs brevets protègent la technologie au cœur de Capilom. À l'entrée de la chaîne de transformation, des cheveux, comme ils ont été jetés par les coiffeurs, des concentrations de couleurs à certains endroits, des boules plus compactes, des élastiques oubliés. À la sortie, des ballots de 200 kilos de cheveux d'un brun uniforme, la couleur moyenne des Français, prêts à être utilisés dans une usine textile. Là-bas, chez un sous-traitant, il n'y a pas de colle ou d'adjuvant chimique ajouté aux fibres pour fabriquer le textile. Comme la laine et les cheveux ont des écailles, ça fait comme du velcro et ça ne bouge plus, explique M. Taylor. Le cheveu est raide et la laine est frisée. Ça s'emboîte. Pas besoin non plus de décontaminer ou de traiter chimiquement la fibre. On n'est plus sur les colorations au plomb des années 1960, dit M. Taylor. On peut trouver des traces d'allergènes, mais cette chaîne a été conçue pour s'assurer qu'à la fin, on a un produit qui est propre, même pour l'agroalimentaire. Chaque tonne de cheveux représente 125 000 clients différents qui ont fréquenté les quelques 6 000 salons de coiffure partenaires de Capilom. Ceux-ci doivent payer un abonnement d'environ 12 euros par mois pour voir leur rejet pris en charge. Un isolant naturel. Capilom est installé dans un incubateur de start-up sur un immense site industriel du fabricant de pneus Michelin. La multinationale a son siège social à Clermont-Ferrand, depuis 140 ans. Un peu plus loin sur le site, deux employés d'une entreprise de paysagement installent plusieurs rouleaux de paillage fabriqués par Capilom en vue de la création d'une plate-bande. La toile va protéger les végétaux contre les variations de température aggravées par les changements climatiques, les pics de sécheresse, les pics de gel, explique Clément Baldeloup. Les cheveux sont un isolant naturel. En les plaquant au sol, on va résoudre ces problématiques. La toile peut aussi être utilisée en foresterie lorsqu'une forêt doit être replantée. Une autre protection qu'on offre, C'est vis-à-vis du gibier, explique M. Baldeloup. En France, quasiment 70% de tout ce qu'on plante est bouffé par le gibier. Des cerfs, des sangliers, etc. La toile de capillum a l'odeur de l'homme, alors le gibier ne s'approche pas. Au départ, ces entreprises mettaient des produits en plastique, continue-t-il. Quand on a des exploitants qui nous commandent 100 000 dalles, ça veut dire qu'ils avaient avant 100 000 tubes en plastique pour protéger les jeunes pousses. La toile, on n'a plus besoin de l'enlever. Ça se dégrade en 3 à 5 ans. Il y a beaucoup d'azote dans le cheveu, donc ça nourrit les plantes. Même le mode de collecte de ces dizaines de tonnes de cheveux se fait de la manière la plus écologique possible. Clermont-Ferrand étant situé en plein milieu de la France, plusieurs plateformes logistiques s'y trouvent. Ce sont les camions de livraison qui reviendraient à vide, qui rapportent les sacs en provenance des secteurs dont ils reviennent. La boucle est bouclée, en attendant de passer par les ciseaux du coiffeur. C'était, en France, des poils humains sont transformés en textile, un texte de Philippe Teixeira, Le Sard, paru le 22 février 2026 dans la presse.
Montréal prépare un règlement allégé contre le gaspillage alimentaire. Un texte de Marco Fortier, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. L'objectif était ambitieux. Pour freiner le gaspillage alimentaire, la Ville de Montréal a envisagé d'obliger les supermarchés et les restaurants à donner leur nourriture invendue à des organismes d'aide aux personnes démunies. Un projet de règlement assoupli est toutefois en préparation parce que les villes n'ont pas le pouvoir légal de forcer la main aux détaillants. Selon ce que Le Devoir a appris, la ville envisage d'obliger les plus grandes entreprises en alimentation, détaillants, restaurateurs, entrepôts, distributeurs et transformateurs, à trier et à conserver leurs produits non vendus dans le but de favoriser leur redistribution avant qu'ils deviennent périmés. Les établissements visés par la réglementation devraient aussi déclarer les quantités d'aliments envoyés au compostage, à l'enfouissement et aux banques alimentaires. Selon nos informations, la ville fait le pari que ces incitatifs mèneraient à une réduction du gaspillage alimentaire sans imposer un fardeau administratif démesuré aux entreprises, dans le contexte de pouvoirs limités dont disposent les municipalités. Un projet pilote mené au cours des derniers mois avec l'organisme Bouffe Action de Rosemont a donné des résultats prometteurs. On n'oblige pas le don de nourriture, mais on veut faire en sorte que le règlement entraîne une diminution du gaspillage alimentaire, explique Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice générale de la Maison de l'innovation sociale, qui a eu le mandat d'accompagner la ville dans l'élaboration du règlement contre le gaspillage alimentaire. Cette mesure est susceptible de remettre dans la chaîne alimentaire 740 tonnes de nourriture par année, qui aurait autrement abouti au dépotoir ou au compostage, selon la Maison de l'innovation sociale. Ces denrées seraient accueillies à bras ouverts par les banques alimentaires qui peinent à répondre à la demande en raison de la hausse du coût de la vie. Objectif zéro déchet. Ce projet de réglementation a été lancé par l'administration précédente, celle de Valérie Plante, qui s'était donné l'objectif de produire zéro déchet à Montréal en 2030. Les ménages sont responsables d'environ 60% du gaspillage alimentaire. La ville agit déjà sur ce front en offrant la collecte des matières organiques dans le bac brun aux ménages de tout le territoire montréalais. La collecte des matières organiques n'a toutefois pas encore été implantée dans l'ensemble des institutions, commerces et industries de Montréal. C'est une des raisons pour lesquelles la Ville insiste pour que les denrées invendues dans les épiceries soient redistribuées dans les banques alimentaires plutôt que d'aboutir au dépotoir. L'objectif de forcer les détaillants à donner leur surplus aux organismes communautaires est louable, mais les municipalités n'ont pas ce pouvoir, explique Marie-Christine Ladouceur-Girard, qui travaille avec la Ville à la mise en place de ce règlement. Il s'agit d'une question de salubrité alimentaire qui relève du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La collecte des matières organiques relève toutefois de la Ville de Montréal qui peut agir pour réduire le volume d'aliments envoyés à l'enfouissement. Le projet de règlement a été assoupli pour cette raison, mais aussi à cause des réticences de l'industrie alimentaire qui craint un alourdissement du fardeau administratif des entreprises. Pour arriver à un consensus sur la réglementation à mettre en place, la Maison de l'innovation sociale a mené des consultations auprès d'une centaine de participants issus de 83 organisations, dont les détaillants, les transformateurs et les distributeurs alimentaires. Le directeur du service de l'environnement de la Ville de Montréal, Roger Lachance, a confirmé au Devoir que son équipe préparait un projet de règlement qui sera soumis à la nouvelle administration à l'Hôtel de Ville. Il nous a redirigés vers la Maison de l'innovation sociale pour obtenir des informations sur le contenu de la réglementation envisagée. Au moment où ces lignes étaient écrites, le cabinet de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada n'avait pas été en mesure d'indiquer au Devoir si elle comptait aller de l'avant avec ce projet lancé par l'administration précédente. Une solution efficace. Chose certaine, le gaspillage alimentaire est largement répandu. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement estime que 931 millions de tonnes de nourriture, soit 17% de la production globale de denrées, ont été gaspillées dans le monde en 2019. Au Canada, ce sont 35,5 millions de tonnes métriques de nourriture qui sont jetées ou gaspillées chaque année, dont près du tiers constituerait des résidus comestibles. L'obligation faite aux détaillants en alimentation de donner leur surplus aux organismes d'aide entraîne des résultats ailleurs dans le monde. Un tel coup de barre réglementaire a mené à une augmentation substantielle de la quantité d'aliments comestibles récupérés en France, en Californie et dans l'État de New York, a conclu l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. Dans ces États, l'enjeu récurrent de la qualité des dons met en lumière la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la qualité et de prévoir du financement et de l'accompagnement pour soutenir les organismes d'aide alimentaire, précisait l'IRIS dans une étude d'octobre 2025. C'était « Montréal prépare un règlement allégé contre le gaspillage alimentaire », un texte de Marco Fortier, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Crainte d'un retour des pluies acides au Canada avec les politiques climatiques de Trump. Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir. Des scientifiques et des écologistes craignent un retour des pluies acides au Canada en raison des politiques de Donald Trump. Mais des experts souligne que ce risque est plutôt faible à cause du déclin inévitable du charbon et de l'efficacité des technologies de contrôle des émissions de dioxyde de soufre. Début février 2026, lors d'une célébration à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est vu décerner un prix, qui n'existait pas auparavant, par le Conseil national du charbon. Vous êtes le champion incontesté du beau charbon propre, a déclaré Jim Gresh, dirigeant de Peabody Energy, au président, en lui remettant un trophée. Celui-ci a fièrement accepté la récompense sous les applaudissements de travailleurs de l'industrie. Si l'industrie du charbon est si reconnaissante envers le 47e président des États-Unis, c'est notamment parce que son administration a débloqué 200 milliards de dollars en financement pour moderniser l'infrastructure énergétique du charbon, comme il est indiqué dans un document publié le 15 janvier 2026 par le Département de l'Énergie. Les intentions du président de donner un nouveau souffle au combustible fossile, le plus polluant, sont unanimement décriées dans les milieux écologistes. Comment peut-on arriver à dire qu'on va recommencer à faire ce qui empoisonnait les gens et leur dire que ça va être bon pour eux? Ça ne marche pas, là, a réagi André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, AQLPA, à propos des ambitions de Donald Trump. C'est en contradiction complète avec la réglementation, la science, avec les accords entre les deux pays. Au fond, c'est absurde, a ajouté le président de l'AQLPA. L'AQLPA était autrefois l'Association de lutte contre les pluies acides. Si le président américain réussit à repartir des centrales dans des États situés au sud-ouest de nous, alors, immanquablement, les émissions qui seraient produites nous affecteraient, a ajouté l'écologiste septuagénaire en faisant référence à un possible retour des pluies acides. Il y a quelques décennies, les pluies acides représentaient la menace prioritaire pour l'environnement dans l'Est canadien. Et André Bellil était en première ligne du combat qui a permis d'éliminer, en grande partie, ce problème. Pour ceux qui, à l'époque, ont sensibilisé la société aux pluies acides, l'écologiste québécois n'est pas le seul à craindre leur retour en raison des politiques de Donald Trump. Gene Leakins, qui est renommé pour avoir co-découvert que l'oxyde d'azote, NOx, et le dioxyde de soufre, SO2, issus de la combustion des combustibles fossiles, causaient des pluies acides, est également inquiet. Je suis préoccupé par le retour de la pollution atmosphérique qui a été si dévastatrice dans les années 1970, a indiqué le scientifique américain, âgé de 93 ans, dans un échange avec la presse canadienne. Selon le fondateur de la Cary Institute of Ecosystem Studies, si l'administration Trump augmente la production de charbon dans des centrales qui n'ont pas un bon contrôle de leurs émissions de dioxyde de soufre, les pluies acides pourraient revenir avec force. Pollution transfrontalière causée par le charbon. Pour comprendre l'impact que pourrait avoir l'augmentation de la combustion du charbon aux États-Unis sur la qualité de l'air dans l'est du Canada, un retour en arrière s'impose. Dans les années 1980, les pluies acides détruisaient les lacs et les forêts, et le smog qu'elles causaient tuait du monde, a expliqué André Bellil, le président de l'AQLPA. À l'époque, une quantité significative d'émissions de dioxyde de soufre, SO2, et d'oxyde d'azote, NOx, produite par la combustion de charbon aux États-Unis, était transportée dans l'est du Canada par les vents dominants. Le SO2 et le NOx se mélangeaient à la pluie pour créer des pluies acides et empoisonner les cours d'eau, la faune et la flore et endommager les bâtiments. Pendant des années, à une époque où l'Internet n'existait pas, André Bellil et d'autres écologistes ont sillonné les villes du Québec, de l'Ontario et du nord-est des États-Unis pour sensibiliser la population au problème. La presse citoyenne a mené à l'accord entre le Canada et les États-Unis sur la qualité de l'air. Ratifié en 1991 par le gouvernement de Brian Mulroney et celui de George Bush, cet accord a forcé les industries fossiles à diminuer leurs émissions de SO2 et de NOx. L'accord visait principalement le charbon et le mazout. Et depuis ce temps-là, on a fermé beaucoup de centrales thermiques au charbon, tant aux États-Unis qu'en Ontario, que dans le reste du Canada, a expliqué M. Bellil. Si certaines centrales au charbon ont fermé leurs portes dans la foulée de cet accord, d'autres se sont tournés vers des technologies qui permettent de capter et de réduire les émissions de SO2 et de NOx. Preuve que l'accord fonctionne, en 2020, les émissions de dioxyde de soufre au Canada et aux États-Unis avaient diminué de 78 % et de 92 % respectivement, par rapport au niveau d'émissions de 1990, selon Environnement Canada. 6 centrales identifiées par Trump. Le 11 février 2026, l'administration Trump a identifié 6 centrales au charbon qu'elle compte moderniser, rénover et prolonger la durée de vie utile. 2 de ces centrales sont situées en Ohio, 2 dans l'ouest de la Virginie, 1 au Kentucky et 1 est localisée en Caroline du Nord. Les centrales en Ohio et au Kentucky pourraient, en raison des vents dominants, émettre des émissions de SO2 qui seraient transportées jusqu'au Canada, a indiqué John Walke, directeur du programme fédéral de la qualité de l'air au Natural Resources Defense Council, NRDC, une organisation non gouvernementale américaine. Mais John Walke ne croit pas que les projets que l'administration Trump veut stimuler produisent suffisamment d'émissions pour faire bouger l'aiguille, au point de devoir un retour problématique des pluies acides. En entrevue avec la presse canadienne, M. Walke a souligné que la majorité des centrales au charbon des États-Unis sont aujourd'hui équipées de systèmes de désulfuration des gaz de combustion qui permettent d'éliminer la majorité de leurs émissions de SO2. Si on se fie aux données provenant du département américain de l'énergie, les 6 installations que l'administration Trump a choisi pour stimuler la production de charbon sont équipés de systèmes de contrôle des émissions de SO2. Ces systèmes de captage de SO2 sont efficaces, au point où, selon John Walke, il faudrait une forte augmentation de la production de ces centrales pour que les émissions de dioxyde de soufre est un impact significatif au Canada. Mais la NRDC n'anticipe pas une hausse importante de ce type de production d'énergie, notamment parce que les énergies renouvelables et le gaz naturel sont beaucoup moins chers que les énergies produites avec le charbon. Les propos du président Trump sur la relance de l'industrie du charbon aux États-Unis pour produire de l'électricité relève, selon moi, davantage de la politique et de la démagogie que de la réalité, a indiqué M. Walke. En entrevue avec la presse canadienne, le professeur émérite en génie et en sciences de l'environnement, Ed Rubin, a souligné que le président américain souhaite prolonger la durée de vie de plusieurs centrales au charbon existantes qui étaient sur le point de fermer, afin d'alimenter les centres de données qui nourrissent l'intelligence artificielle. Selon cet ancien professeur au Carnegie Mellon University de Pittsburgh, qui a étudié la pollution atmosphérique pendant une cinquantaine d'années, les risques que les émissions de SO2 produites par ces centrales au charbon puissent alimenter des pluies acides au Canada dépendent des éléments suivants. La qualité des systèmes de contrôle des émissions de ces centrales, la teneur en sulfure du charbon qui est brûlé, mais aussi le facteur de capacité des centrales, qui fait référence à la quantité d'énergie qu'elles seront appelées à produire. Mais pour l'instant, il est difficile de prévoir comment ces facteurs évolueront dans les années à venir, a résumé Ed Rubin en soulignant que le diable est dans les détails. Un pas en arrière énorme pour le climat. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les combustibles fossiles sont de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial et ils sont responsables de plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre. La combustion de charbon serait responsable d'environ 40 % des émissions de CO2 liées à l'énergie au niveau mondial. Contrairement aux émissions de SO2, les émissions de CO2 ne peuvent pas être captées par les systèmes mis au point par l'industrie du charbon. Les décisions du président représentent un énorme pas en arrière dans la lutte contre le changement climatique, a tenu à préciser le directeur du programme fédéral de la qualité de l'air au NRDC, John Walke. C'était « Crainte d'un retour des pluies acides au Canada avec les politiques climatiques de Trump ». Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir.